Camille alla rit, au pays des cigales, la couronne de roses, comte Pompéien. Ce soir-là, il y avait grand dîner chez la courtisane Arkenassa. Toute la jeunesse dorée de Pompéi était là. Tous les débauchés qui achetaient un caprice au prix du revenu annuel d'une ville, qui pouvaient mourir en disant « la source des jouissances humaines, des fantaisies royales est tarie pour nous », mangeaient, buvaient, riaient autour d'une vaste table en marbre de Paros, veinée de rouge, dont des griffes de lion incrustées d'or formaient le pied. Le repas touchait à sa fin. Les petits esclaves nègres, dont les corps entièrement nus, luisaient à la lumière, des ronds de métal aux chevilles et aux poignets, allaient et venaient, portant les plats de murènes préparés au garum, les oiseaux du phase, les huîtres du lac Lucrin, les cervelles de Pan, les foies de Scarus, les fruits de toutes sortes. Les vins de Crète et de Massique écumaient encore dans des amphores d'or entourés de neige, et sous leur douce influence, dans cette pénétrante atmosphère pleine de senteurs, d'essences, de roses de Smyrne et de myrrhe d'Arabie, les têtes s'étaient échauffées, les sens révoltés se cabraient sous l'aiguillon d'un impérieux désir. Il faut dire que dans le triclinium de la riche courtisane, tout faisait naître le besoin d'aimer. Toutes les splendeurs de l'art antique y avaient été déployées avec une largesse de sardanapale. Arkenassa pouvait se passer ses fantaisies, car, malgré son extrême jeunesse, elle possédait assez de sesterces dans ses citernes pour payer la rançon de plusieurs villes. Le long des murs s'étalaient des panneaux de fresques représentant différents sujets. Ici, l'artiste avait peint un coin de l'Olympe. Là, c'était Ixion embrassant la nue. Plus loin, un faune aux pieds de bouc, aux oreilles pointues, ivre de luxure, bondissait dans les hautes herbes, poursuivant une naïade affolée qui s'enfuyait, tenant encore entre ses doigts, aux ongles roses, la nature mûre sauvage qu'elle venait de cueillir. Une mosaïque d'un travail merveilleux dessinait de capricieuses figurines sur le parquet. Une lampe d'onyx remplie d'une huile odoriférante et soutenue par des chaînes d'argent massif éclairait l'appartement. Du nard de Perse brûlait dans des cramclins d'or et, dans un angle de la salle, accroupi sur la peau d'un léopard, une belle esclave nubienne, aux yeux noirs, à la peau tannée, aux lèvres rouges, chantait l'estance d'une idylle qu'accompagnait les frémissements d'une lyre à trois cordes. L'ivresse étouffait la raison. La joie débordait comme l'ambroisie d'un vase trop plein. Le rire soulevait les poitrines, puis de son joyeux bruit faisait répercuter les échos de larges couloirs à pilastres de marbre. Arkenassa, pourtant, ne partageait pas la gaieté bruyante de ses convives. Tandis qu'il riait et chantait, accoudé sur la table, le menton dans la main, les pieds croisés sur un escabeau d'ivoire, elle suivait d'un œil indifférent les phases diverses de cette scène. Si Pygmalion avait pu la voir dans cette pose nonchalante, il eût fait la statue de la rêverie au lieu de Galatée. À ce moment, la belle Pompéienne était paresseusement allongée dans une longue chaise sculptée. Ses cheveux, légèrement ondés, se relevaient vers les tempes à la mode grecque. En dessous, noyée dans une voluptueuse tristesse, ses yeux brillaient ainsi que deux étoiles jumelles. Sa bouche dédaigneusement arquée avait des couleurs de pourpre. Ses bras, suavement modelés, étaient nus jusqu'aux épaules. Son col arrondi, sa gorge orgueilleuse, affrontaient les regards. Ses épaules brunes sortaient à demi de l'ouverture de sa tunique, comme Hélios émergeant de la sérénité bleue du ciel. « Que donc Arkenassa pourrait être ainsi maussade ?» demanda l'un des convives. « Oh, elle a peut-être perdu les faveurs de son dernier amant, dit Plancus. Mais le trône est inoccupé. Je prends la place, clamèrent en même temps les cinq Pompéiens. Ah, vous n'y êtes pas, mes amis, observa Diomédès. Mais lui a-t-on volé son bracelet d'or d'Ophir? Son flamant rose s'est-il envolé? Non, ce n'est rien de tout cela, expliqua Alconius. Vous vous trouvez aussi loin de la vérité que d'Athènes. Mais que veux-tu dire? Ajoutèrent les autres convives, pour un instant devenus silencieux. Eh bien, je veux dire que je prétends connaître le secret motif de la tristesse d'Alcénassa. Elle est amoureuse. Parbacchus, dit le fils du consul Arius, voilà qui est impossible. Je suis plutôt porté à croire que je viens de voler une des pommes du jardin des Hespérides. Pourtant, continua Alconius, sans se départir de son calme, ce que j'ai dit est vrai. Je puis même donner des preuves. Arcénassa a vu avant-hier au spectacle un étranger, presque un enfant, d'une remarquable beauté dont elle s'est éprise. Comment et où l'a-t-elle approché, je l'ignore. Mais ce que je puis affirmer, c'est que l'heureux étranger s'appelle Miron, et que lui et Arcénassa sauraient s'enfermer ici durant une longue journée. Oh, mais ce que nous venons d'entendre est donc vrai, ô Vénus, fit Diomédès, qui se levait en titubant et portait à ses lèvres le bras satiné d'Arcénassa. Une brusque poussée de la courtisane fut la réponse à cette demande. Diomédès, dont les fers à jambes flébissaient déjà, recula avec tant de force qu'il fit tomber un aigrillon, gros comme le poing, qui passait derrière lui, portant une aiguillère d'onyx sur l'épaule. L'aiguillère se brisa, et l'enfant s'en alla en criant, le visage sillonné de larmes et de gouttelettes rougeâtres. Décidément, Arcénassa n'est pas dans ses beaux jours, remarqua Plancus en éclatant de rire. Tu n'as qu'à te surveiller, ajouta Alconius, comme certaines femelles au printemps, l'amour la rend furieuse. Tiens-toi bien. L'amour, fit tout à coup Arcénassa, en posant sur la table la coupe d'ambre qu'elle venait de vider et qu'un sculpteur avait modelée sur son sein. L'amour, il vous sied bien d'en parler. Vous connaissez le mot et non la chose. L'amour, vous l'avez peut-être vu passer comme une ombre dans les fumées de l'orgie. C'est à peine s'il vous a été donné de l'entrevoir. Quel est celui d'entre vous qui pourrait inspirer cette passion qui enivre, enfanter cette flamme divine qui fait tout oublier, qui dévore, qui confond deux êtres, deux âmes, au point d'en faire un tout? Est-ce Plancus, vieillard de 20 ans, qui ne peut marcher que soutenu par 2 esclaves? Est-ce Diomédès, dont le visage ridé est peint comme celui d'une vieille fille de joie? Est-ce Alconius qui, au lieu de sang, a du lait dans les veines? Est-ce Arius, corps atrophié, dont mes murènes ne voudraient pas? Dites donc, quel est celui-là? L'amour, vous en êtes indigne. Vous n'êtes que des produits pourris de la prostitution et du vice. Oui, Alconius a dit vrai, j'aime de toutes les forces de ma jeune âme, et c'est avec joie que je me suis donné à Miron. Pour un de ses sourires, pour un de ses baisers brûlants, je suis prêt à vendre tout ce que je possède, mon palais, mes bijoux, mes esclaves, mes trésors, et votre sang à tous par-dessus le marché. Athénassa s'était insensiblement animée. Le feu de la haine brillait dans ses yeux. Ses seins agités soulevaient la tunique qui les recouvrait. Ses lèvres tremblaient de colère. Pendant qu'elle parlait ainsi, Plancus et Alconius, d'abord attentifs, s'étaient endormis et avaient roulé sous la table. L'esclave nubienne avait interrompu ses chants et la lampe suspendue au plafond brûlait à peine. Arcénassa fit approcher 2 esclaves scythes, colosses à cheveux crépus, et avec un geste impérieux, « Jetez-moi ces dormeurs à la rue. Quant à vous, mes chers seigneurs, » fit-elle en se montrant le couloir de sortie à Diomenes et à Arius, « voici le chemin que vous devez suivre. » Arius et Diomenes, comprenant que la résistance devenait impossible, obéirent à l'injonction de la courtisane. Quelques instants après, ils se trouvèrent dans la rue toute blanche des clartés de la lune, en face d'une solide porte de cèdre ornée d'énormes clous d'airain. « Voilà un dénouement auquel je ne m'attendais pas !» observa Arius en descendant, tant bien que mal, l'escalier de marbre du palais. Chapitre 2. Arkenassa était amoureuse, amoureuse folle. Elle aimait de cet amour vrai et profond, qui n'apparaît qu'une fois dans le courant de la vie. Jusqu'à cette époque, la belle Étaïre avait vécu pour l'amusement de riches désœuvrés. Elle vendait ses caresses à celui-ci, ses œillades à celui-là, ses nuits à d'autres. Elle fut bientôt lasse de cette existence bestiale. Le jour vint où elle ne voulut plus être que pour elle et pour son plaisir. Ce désir la prit dès l'instant où elle rencontra Miron au spectacle. Le jeune homme, assis au banc des brutes et des étrangers, regardait froidement les grimaces des acteurs, et l'augmentation bouffonne du prologue le fit à peine sourire. En apercevant, Arkenassa se sentit renaître. De longs frissons coururent en elle. Elle s'éprit de lui, et la courtisane, jusque-là si sceptique et si froide, ne put vivre sans Miron. Deux jours après, en passant devant le forum Nundinarium, Miron fit la rencontre d'une jeune femme qui, d'un ton bas, lui dit ces quelques mots. « Je suis Marcella, l'esclave commise au plaisir de la belle Arkenassa. Ma maîtresse vous aime et vous attend. Suivez-moi. » Miron devint donc l'amant d'Arkenassa. La courtisane, qui depuis si longtemps imprimait à Pompéi le joug de ses caprices, de ses fantaisies, elle qui conduisait la mode, elle qui faisait le sujet de toutes les conversations, consentit à rester, ainsi qu'une vestale cloîtrée, enfermée dans cet amour qui l'avait dépouillé de toutes ses souillures. Elle ne s'occupait plus de rien et passait des journées entières, retirée dans son thalamus, vivant avec Miron une vie élyséenne, semée de douceur et de plaisir. Arkenassa venait de se lever. Elle était à demi renversée sur une chaise d'ivoire dans la petite salle où d'ordinaire elle faisait sa toilette. Le soleil, plus matinal que la belle fille, dorait de ses rayons les colonnes à chapiteaux doriques de l'acropole. Un vent tiède agitait la tenture transparente pendue devant la fenêtre et de temps en temps permettait d'apercevoir les cimes des lauriers roses qui se balançaient dans la cour du palais. La courtisane était en déshabillé du matin. Ses cheveux dénoués ruisselaient sur ses belles épaules. Deux esclaves mauresques passaient de peigne d'ébène dans leur masse odorante. Agenouillé devant elle, un enfant blond et joufflu tenait un miroir de métal fondu orné de plumes d'autruche dans lequel Arkenassa se plaisait à admirer le contour de son gracieux visage. À ses côtés, une ravissante jeune fille agitait avec lenteur un éventail phénicien qui mêlait des couches d'air frais à l'atmosphère embaumée dans laquelle elle respirait. « Vois, si Miron n'est pas encore entré dans la voie Appia, » dit Arkenassa, l'esclave commise à ses plaisirs, en débarrassant ses doigts effilés des bagues qui les chargeaient. Marcella sortit pour exécuter cet ordre. Elle revint aussitôt, annonçant que la voie Appia était déserte. Un cri de douleur retentit. Arkenassa, folle d'impatience, venait de prendre une des épingles qui retenait ses cheveux et l'avait enfoncée jusqu'au bout dans le crâne d'une esclave. Puis, ses vêtements en désordre, son beau corps presque nu, les yeux étincelants, les lèvres pâles, la superbe Étaïe rentra dans son appartement. « Qu'on me laisse seule !» exclama-t-elle d'une voix frémissante, en faisant glisser les anneaux d'airain de la portière qui fermait sa chambre. C'était une salle extrêmement ornée. Sur le plafond était peint, avec une rare pureté de dessin, Mars, Vénus et l'amour. Une frise composée de colombes, se becquetant dans les feuillages, se développait au-dessus d'un revêtement de marbre. La mosaïque du parquet représentant des reliefs de festins. Au fond de la chambre, sur un biclinium à deux places, Arkenassa était accoudée. Deux couleuvres en or massif qui se mordaient la queue formaient ses pans de loques et projetaient leur ombre sur ses joues pâlies. Elle portait un péplum à la grecque. Ses chaussures, d'adorables chaussures brodées de perles, gisaient près du lit. Une légère couverture de byssus la recouvrait en partie. Parfois un long soupir s'échappait de ses lèvres, et sa jolie petite main, plus blanche que la neige, prise d'impatience, crispait dans les torsades bluissantes de ses cheveux parfumés. Mais pour quelle raison Arkenassa venait-elle ainsi se retirer seule et triste dans cet asile de l'amour? « Mais je n'aimerai jamais, disait-elle un jour, ou si j'aime, oh, j'aimerai avec une violence passionnée. » En effet, depuis qu'elle avait rencontré Miron, une passion ardente, implacable, s'était emparée de son être. Le lendemain, comme l'oiseau qui tombe, foudroyé par les regards d'un serpent, les yeux humides, frémissantes, lascives, elle se donnait à lui. La courtisane, qui autrefois riait des violentes affections des autres et s'abusait de l'armée d'adorateurs qu'elle traînait à sa suite, s'était à son tour trouvée prise au jeu, quelquefois terrible, de l'amour. Elle n'avait jamais senti battre son cœur. Aussi toute son âme se concentra-t-elle sur cette unique passion. Elle fit son idole de Miron, vivant pour lui, mendiant d'un baiser de ses lèvres, un regard de ses yeux. Ses ardents désirs inassouvis, elle avait soif de son amant. Elle ne l'avait plus vu depuis la veille. Aussi la jalousie lui déchirait-elle le cœur. « Qui sait, disait-elle, étendue sur son biclinium, ce qu'il fait tandis que j'attends ici ?» Serait-il déjà là de moi? Ne suis-je plus assez belle pour lui? Me trouve-t-il trop vieille à 20 ans? Ou bien, quelque autre pompéienne possède-t-elle son amour? Ah, celle-là, quel que soit le rang qu'elle occupe, qu'elle se méfie de moi. On n'arrache pas impunément le lion à sa compagne. Et le sang lui montait dans la tête, près de ses tempes de grosses veines, se gonflait en bleu. Chapitre 3. Tout à coup, les anneaux d'airain de la portière glissèrent sur leurs tringles, et un jeune homme entra. C'était Miron. Ses cheveux noirs et bouclés tombaient en grappes soyeuses sur ses épaules lustrées. Une robe de lin enveloppait sa taille de ses plis souples. Des bandelettes blanches, tramées de fils d'or, montaient en se croisant autour de ses jambes rondes. Ses pieds mignons, comme ceux des dieux, semblaient n'avoir jamais foulé que le sol de l'Olympe. « Ah, oh, c'est enfin toi, ami !» s'écria Arkenassa en apercevant son amant. « Oh, je ne savais plus que devenir !» Et toutes les mauvaises pensées qui se heurtaient sous son front disparurent, comme ces nuages noirs, troupeaux en déroute, qu'après l'orage le vent, pareil à un berger d'Arcadie, pousse devant lui dans l'azur du ciel. Athénassa se leva à demi, rayonnante de bonheur, avec un geste voluptueux. Elle fit signe à Miron de s'étendre à côté d'elle, sur le trichinium où, quelques instants avant, la jalousie la tordait. Une esclave africaine, habituée à ces scènes, entra silencieusement et déposa sur une petite table à pied de griffon, dressée près du lit, différents mets servis dans des plats d'or. On y voyait des langues de phénicoptères et des fruits de toutes les saisons, des fleurs fraîchement cueillies jonchaient le sol, et les amphores de vin plongeaient dans des urnes pleines de neige. Miron prit au hasard quelques bouchées sur les plats disposés à portée de sa main. De temps à autre, la Kenassa trempait ses lèvres dans un verre mirin rempli de vin de Falerne. « Oh, lorsque je t'ai vu pour la première fois, » soupira la Kenassa en tournant un long regard humide vers son amant, « et que tes yeux ont rencontré les miens, tu as ouvert un horizon inconnu à mon âme. » Et j'ai senti que tu serais mon premier et mon dernier amour. Ma bien-aimée, s'écria Miron dans un élan passionné, c'est toi que j'attendais, c'est toi que je voyais en rêve. Maintenant je puis mourir, car j'ai respiré cette fleur inconnue qu'on appelle la félicité humaine, et j'ai vécu. Jamais mon espérance ne m'avait fait entrevoir une parcelle des joies que tu réponds en moi. Comme une déesse bienfaisante, je t'aime, Alkenassa, au-delà de la vie, au-delà du tombeau. Puisse les dieux t'entendre, répondit Alkenassa, en inclinant sa tête sur l'épaule de son amant. Oh, presse-moi sur ta jeune poitrine, enveloppe-moi de ta tendresse, j'ai besoin de ton amour. Il m'a fait une existence nouvelle, il me semble que, si j'étais morte, les baisers me rendraient la vie. Et contre son cœur, Miron sentait s'élever et s'abaisser les seins fermes et blancs de la courtisane. « Tu ne sais pas, » poursuivit Arkenassa, « combien je suis heureuse de te sentir là, près de moi. Tout le bonheur que j'ai eu avant de te connaître n'est rien comparé à ce que j'éprouve aujourd'hui. Parfois, je voudrais te garder près de moi, t'empêcher de sortir. » Faire de toi mon bien, ma chose. Car j'ai toujours peur, ami, qu'une rivale vienne te ravir à mon amour. Je t'ai donné mon corps, mon âme, tout enfin. C'est pourquoi je te veux pour moi seul. La nuit passée, continua-t-elle en jouant avec les cheveux de son amant. Oh, j'ai fait un singulier rêve, un rêve qui... s'il pouvait se réaliser, mettrait le comble à mon bonheur. Tu étais là, m'entourant de tes bras nerveux, comme tu le fais maintenant. Et par un brusque mouvement, je portais à ma bouche la bague que tu vois à mon doigt, et dans le chaton dans lequel sont deux gouttes d'un poison violent qui tue sans faire souffrir. Et quand tu vas m'embrasser, tu bues le poison sur mes lèvres, et la mort nous emporta dans les bras l'un de l'autre. Si je te disais que j'ai envie de mourir ainsi, ne trouverais-tu pas, mon bien-aimé, que je suis folle ? Non, Arkenassa, tu n'es point folle, soupira Miron, en appuyant sa tête sur la gorge de sa maîtresse. Tu vas même au-devant de mes désirs. Quoi ? Voudrais-tu aussi mourir ? Exclama la courtisane, tandis qu'un éclair de joie illuminait ses yeux. « Oui, » poursuivit Miron, « je voudrais m'endormir en te pressant contre moi. À quoi me servirait désormais de vivre? Que puis-je espérer de plus maintenant que je te possède? Le bonheur et la joie nous couvrent de leurs ailes. Le ciel est clair, les oiseaux chantent. Courons-nous de roses et mourons tandis qu'ils sont avec nous. Peut-être demain, le malheur s'apesantira-t-il sur nos têtes ? » Et Arkenassa, d'une voix haletante, « Eh bien alors, viens, je vais te tuer à force de caresses, à force de plaisir. Épuisons-en en quelques heures toutes les jouissances humaines. Mon rêve deviendra une réalité, et ce jour sera le plus beau de ma vie. » Ses yeux flamboyaient comme une bête fauve prise d'amour. Fougueuse, elle enlaça son amant et attira son corps vers elle. On n'entendit plus que leurs soupirs, leurs ardents baisers. Puis pendant que Miron posait sur la tête de sa maîtresse la couronne de roses qu'elle lui avait envoyée comme un gage d'amour. Arkenassa porta la bague à sa bouche, qu'elle colla ensuite sur les lèvres de Miron. Les deux amants se tordirent un instant dans une étreinte brutale, et dans la chambre de la courtisane, tout redevint silencieux. Chapitre 4. Le soir, lorsque Marcella vint remplir la lampe d'huile odoriférante, elle fut surprise du calme qui régnait dans l'appartement. La courtisane et Miron se tenaient étroitement enlacés. Les roses de la couronne d'Arkenassa, effeuillées, étaient tombées en pluie odorante sur ses seins nus. Marcella appela sa maîtresse, d'abord doucement, puis plus fort, croyant qu'elle dormait. Elle toucha le corps d'Arkenassa, devenu froid comme du marbre. L'Étahir et Miron étaient morts, et, chose étrange, au moment de l'ensevelissement, tant l'étreinte avait été violente, il fut impossible d'arracher Arkenassa des bras de son amant. C'est ainsi qu'on racontait l'histoire d'Arkenassa et de Miron dans les petits dîners de Pompéi, peu de temps avant que cette ville fût engloutie sous la lave du Vésuve.